This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
France Inter. Le 18-20.
Le 18-20, ce soir à Haïfa en Israël, ville devenue en quelques mois l'épicentre culturel des Arabes israéliens. Musique, théâtre, cinéma, les arts au service de la résistance politique. Et nous serons également à Londres et Pékin pour la revue de presse des correspondants de France Inter. 18h55, l'édito d'Alain Frachon sur la crise des réfugiés et ce grand marchandage entre Turquie et Union européenne. Mais avant cela, question sur la démocratie africaine. 6 pays majeurs sont appelés aux urnes cette année. Le Congo dès ce week-end. Alors changement ou continuité, transparence ou opacité, on va tenter de comprendre ce soir.
Michaël Thébault, un jour dans le monde.
C'était il y a un peu moins d'un an, en avril 2015, au Burundi, le président sortant, Pierre Nkurunziza, annonçait son intention de briguer un troisième mandat consécutif, quitte à s'arranger avec la Constitution. Il sera réélu 3 mois plus tard sur fond de violence. Et voici maintenant, entre autres, le Niger, le Bénin, le Tchad, le Gabon, la RDC et donc ce week-end le Congo-Brazzaville. Premier tour de la présidentielle avec en lice le sortant Denis Sassou Nguesso qui lui aussi a fait modifier la constitution. 32 années passées au pouvoir et persuadé d'y rester. Le jour du vote dimanche, ce sera, a-t-il dit, un pénalty tiré et marqué, puis la victoire. Aucun doute à ses yeux, malgré la présence de 8 autres candidats. Alors est-ce un énième exemple de ces RLD, comme on dit, ces régimes longue durée africains? L'alternance est-elle vraiment impossible? Pour en parler, nous sommes avec Antoine Glaser. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur Inter, spécialiste de l'Afrique, fondateur de la Lettre du Continent, auteur d'innombrables ouvrages de référence, et puis le petit dernier, hein, tout frais, son titre « Arrogant comme un Français en Afrique » chez Fayard. Alors avant d'évoquer précisément, Antoine Glaser, le Congo, première question panoramique, si je puis dire, comment elle va la démocratie africaine?
Franchement, moi je trouve qu'elle va plutôt bien, contrairement à ce qu'on entend et on peut dire. Je pense qu'elle va plutôt bien puisque au-delà même d'un certain nombre de ce qu'on appelle les dinosaures qui veulent se maintenir au pouvoir et qui sont très souvent là depuis 30 ans, et il y a à côté de ça ce qu'on voit pas, ça veut dire une démocratie, une montée des sociétés civiles africaines. Vous avez un certain nombre de pays comme le Burkina Faso où finalement quand les jeunes sont descendus dans la rue, ils ont empêché non seulement le président Blaise Compaoré de se maintenir au pouvoir, mais ils ont aussi empêché un coup d'État en octobre 2015. Vous avez des grands pays comme le Nigeria où il y a eu une alternance démocratique, ça veut dire vous avez un ancien putschiste d'ailleurs qui est Mohamed Bouhari qui a succédé à Goodluck Jonathan. Donc vous avez, il faut voir, c'est vrai que vous avez sur l'ensemble du continent un certain nombre de présidents qui ont modifié les constitutions pour faire un troisième mandat. Vous avez
voire un quatrième, voire un cinquième.
C'est ce qu'on appelle des présidents à vie qui veulent mourir au pouvoir. Mais si vous voulez, à côté de ça, vous avez des débats en Afrique. Vous avez maintenant des oppositions très souvent très faibles. Les présidents sortants ont tous les moyens de l'État, comme on le verra au Congo-Brazzaville. Ils sont comme à la parade. Tous ces chefs d'État ont appris avec le temps et avec souvent des constitutions français ou étrangers à modifier leur constitution. On a quand même exporté dans ces pays notre code napoléonien. Donc, ils ont appris à faire les choses, à verrouiller. Ils ont tous les moyens de l'État pour faire leur campagne. Mais en face de ça, il y a quand même, encore une fois, des changements, des montées en puissance de la jeunesse qui ont dit non au Sénégal, par exemple, pour Abdoulaye Wade. Il faut voir aussi, d'abord, c'est l'Afrique, ça n'existe pas, c'est pas un pays, c'est un continent.
Justement, sans vouloir schématiser, mais on entend souvent dire que les changements, c'est plutôt pour l'Afrique de l'Ouest et la continuité, hélas, plutôt pour l'Afrique centrale. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi?
Oui, ça veut dire, en l'occurrence, en ce moment, le Congo-Brazzaville ou la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, où là, il ne donne pas de date d'élection, donc on sent que ça commence à riper pour se maintenir au pouvoir. Vous venez de le dire, Pierre Nkurunziza au Burundi, Paul Kagame qui vient de se faire aussi plébisciter par son peuple pour se maintenir en 2017. Donc c'est certain qu'on a l'impression que c'est plus l'Afrique centrale. Mais globalement, si vous voulez, quand on parle de démocratie, pour moi, il y a deux choses. Il y a vraiment les élections. Bon, c'est une période particulière, effectivement, de la vie démocratique. Il y a le droit à l'expression. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on voit, il y a énormément de débats maintenant en Afrique en particulier parmi la jeunesse, parce que l'Afrique, c'est vraiment le continent de la jeunesse. Et donc, je pense que les choses bougent. On ne peut pas dire, bien sûr qu'il y a des types qui se maintiennent au pouvoir au bout de 30 ans et autres, mais même au Congo-Brazzaville, vous verrez ça, les choses ne vont pas, même si il explique qu'il va passer avec, il dit aussi un coup KO, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Mais voilà, ça, c'est un débat, c'est un enjeu, il y a des tensions en ce moment à Brazzaville, ça ne se passe pas comme dans le temps où c'était quasiment, surtout de temps du monopartisme.
Mais on va s'arrêter en détail, Antoine Glazer, sur le cas du Congo-Brazzaville, mais comment expliquez-vous, malgré effectivement tous ces progrès, de fait ils sont là, comment expliquez-vous que de telles mascarades électorales soient encore possibles, justement à l'heure des réseaux, à l'heure de cette jeunesse qui bouillonne et qui veut communiquer? Pourquoi on a encore ces mascarades? Je pense simplement au Togo, avril 2015, on annonce les résultats définitifs après dépouillement dans seulement 14 circonscriptions sur 42.
Oui, mais parce que c'est des questions de moyens, de rapport de force. Vous avez, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Vous avez des chefs d'État, surtout dans les pays de rente, comme en particulier le Congo, où vous avez tous les moyens de l'État. Donc vous avez non seulement les moyens d'État, vous avez aussi la manne privée. Et si vous voulez, vous avez l'Afrique de jour où ils apprennent à finalement à gérer tout le processus électoral, tout le processus institutionnel des élections, en verrouillant bien les systèmes. Et puis en même temps, vous avez bien évidemment aussi, alors les moyens de l'État, mais en même temps, vous avez l'Afrique de nuit, qui est une Afrique aussi souvent ethnique, sociale. Ils savent jouer avec des barons d'un certain nombre de régimes. Et on va le voir au Congo-Brazzaville, par exemple, face à président Denis Sassou Nguesso, qui est une ethnie Mbochi du nord du pays. Vous avez en face la seule parade que l'opposition a trouvée, comme ils ont été incapables aussi, parce qu'ils ont aussi une responsabilité à choisir un seul, à se mettre tous ensemble derrière un candidat unique. Du coup, ils ont choisi des régions. Vous avez Claudine Munari, Tatsi Mabiala, qui eux, qui sont plus ce qu'on appelle le
Nibolek. C'est émiettement de l'opposition.
Voilà, émiettement, mais en même temps, par région. Vous avez le général Mokoko, qui était l'ancien chef d'État major quand même de l'armée, qui se présente contre Denis Sassou Nguesso, qui lui est de sa même région. Vous avez des régions comme Pointe-Noire, qui est une région importante, par contre récupérée par Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire, quand on connaît, on sait que derrière, finalement, cette sorte de démocratie, c'est pas, je veux dire, il y a toujours un double jeu régionaliste ethnique dont il faut tenir compte. Donc c'est extrêmement compliqué. Et encore une fois, vous allez voir, comme ça s'est passé au Sénégal, comme ça s'est passé au Burkina Faso, ça sera peut-être pas cette année, mais vous allez petit à petit voir monter. On a bien connu des révolutions, nous, avec une partie de nos bourgeoisies qui ont destitué nos monarques, mais ça arrivera en Afrique, il y aura des printemps africains, ça a commencé. Faut pas, c'est une question de temps et de moyens. Ces pays, il y a 4 millions d'habitants.
Alors justement, sur les moyens, et là, on s'arrête spécifiquement au Congo, donc élection de dimanche. Je voudrais d'abord vous faire écouter cette interview assez incroyable de Benoît Koukébéné. Il est l'ancien ministre du pétrole de l'actuel président Sassou Nguesso. Alors il est aujourd'hui du côté de l'opposition, en exil à Paris. Et il y a quelques jours, il a expliqué à Christian Chéneau de France Inter comment fonctionnent les finances publiques congolaises. Écoutez.
Quand le pétrole était au plus haut, quand le pays engrangeait beaucoup d'argent, la population n'a jamais vu cet argent. Nous sommes dans un pays, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les gens mangent peut-être une fois par jour. Et c'est la misère. Le chômage est grandissant, et surtout le chômage des jeunes.
Où passe l'argent du pétrole?
L'argent du pétrole est recueilli par le pouvoir en place, pour dire plus clairement, par M. Denis Sassou et son clan. Tout l'argent du pétrole n'arrive même pas au trésor public. On ne sait pas où est-ce qu'il est récupéré.
Alors qu'est-ce qu'il en fait, cet argent?
Qu'est-ce qu'il en fait? Il s'amuse avec, il corrompt avec, il voyage avec. C'est quelque chose, je ne sais pas comment le qualifier, c'est hallucinant ce qui se passe au Congo. Ils ont un programme qu'ils appellent de municipalisation accélérée. Autrement dit, chaque année, ils décident d'une région, ils vont soi-disant faire des travaux. Mais à quoi assiste-t-on? Ils vont dans cette région, des milliards sont sortis, des travaux sont engagés, mais partout où vous passez, vous trouvez qu'on appelle des éléphants blancs partout. Parce que les travaux, on les commence, on ne les finit jamais. Mais en réalité, l'argent n'arrive même pas dans la région. On a décrété ce tant de milliards Mais quand je dis 2 milliards, c'est autour de 100 milliards de francs CFA, 200 milliards de francs CFA pour telle région. Mais l'argent n'arrive jamais dans la région. L'argent est déjà décaissé au niveau de Brazzaville par le groupe, la famille et les soi-disant hommes d'affaires. C'est ceux-là qui prennent l'argent à partir du trésor public et les travaux ne sont jamais terminés. Ou alors, on fait également des travaux rien que pour sortir l'argent. On décide, dans une région où vous n'avez pas de sportifs, on construit un stade hyper moderne. Il n'y a pas de footballeurs, il n'y a pas d'athlètes, mais on a fait le stade. On ne fait pas l'hôpital, hein. On ne fait pas l'hôpital. L'hôpital, ça, ils oublient. La situation est dangereuse, elle est voire même explosive. Un pays comme le Congo, à peine 3,5 millions, 4 millions d'habitants. Même si le baril est à 20 dollars, ce pays peut encore vivre.
Donc c'est un immense gâchis.
C'est plus qu'un gâchis, c'est un sabotage.
Voilà, Benoît Koukébéné, donc ancien ministre du pétrole du congolais. Édifiant quand même, Antoine Glaser.
Il faut être.
Il est passé dans l'opposition.
Mais il faut avoir l'honnêteté de dire que Benoît Koukébéné était le ministre du pétrole de l'ancien président Pascal Lissouba et non pas de Denis Sassou Nguesso.
C'est
important de dire ça. Quoi. C'était de l'ancien régime. Et c'est vrai que, par contre, tout ce qu'il dit, c'est une réalité. Mais bon, du temps aussi de l'ancien président Pascal Lissouba, il y avait aussi cette gabegie, etc. Ça veut dire, le problème de l'Afrique, c'est argent égale pouvoir et pouvoir égale argent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de répartition et il n'y a pas non plus toute une partie, si vous voulez, au niveau de redistribution. Et c'est vraiment le parti qui est souvent le clan, l'ethnie, et plus les gens...
Parce que là, il parle du clan actuel, du
mais
clan Sassou Nguesso.
Où il a absolument raison, c'est vrai que le président Denis Sassou Nguesso, plus les gens, enfin, comme lui, comme tous les autres chefs d'État, plus ils restent au pouvoir, plus ils se referment sur leur clan, la famille, le fils qui s'occupe du pétrole, la fille qui s'occupe de la communication, le neveu qui s'occupe des services secrets. C'est-à-dire, les chefs pensent qu'ils sont des chefs et ils se referment sur leur clan, leur ethnie et autres. Plus ils restent au pouvoir, plus c'est comme ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, ce qui est arrivé à Blaise Compaoré qui a chuté au Burkina Faso.
Mais est-ce que cette corruption, c'est pas le principal frein à un authentique processus démocratique?
Absolument. Ça veut dire, le problème de la corruption, c'est le problème, bien sûr, central en Afrique. Mais vous avez des pays où vous avez un minimum de redistribution. Le problème, c'est quand il n'y a pas du tout de redistribution et qu'il y a un verrouillage total. Ça veut dire, vous avez d'un côté l'impression qu'il y a une vie démocratique, vous organisez des élections pour faire plaisir. Il y avait un président, pas citer son nom, centrafricain, qui disait en sa langue, à la population, vous savez, les blancs, là, il faut faire les élections pour avoir l'argent, on va faire les élections. Donc, voilà, c'était uniquement vis-à-vis de la communauté internationale, ce que j'appelle l'Afrique de jour, l'Afrique de nuit. Vis-à-vis de la communauté internationale, on fait l'Afrique de jour, on fait tout le processus démocratique en disant, voilà, on respecte un certain nombre de choses. Et puis, vis-à-vis, finalement, de sa population, de son peuple, l'Afrique de nuit, c'est verrouillé, on intimide les opposants et finalement, il y a la marge de manœuvre extrêmement étroite. Mais c'est le problème aussi de l'opposition. L'opposition, c'est pas normal qu'à un moment donné, il n'y ait pas un candidat, qui ne se mette pas derrière un candidat unique, qui n'arrive pas à s'entendre. Parce qu'il y a aussi ce problème d'ethnie et de région.
Vous parliez un instant, Antoine Glaser, de la communauté internationale. On fait plaisir à la communauté comme ça en surface. À quoi servent dans ces conditions ces batteries d'observateurs internationaux que l'UE, que l'ONU s'empressent d'envoyer à chaque scrutin? Ils servent à quoi?
Ils servent pas à grand chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous savez que pour l'élection qui va avoir lieu dimanche en République du Congo, c'est vrai que l'Union européenne, a refusé d'envoyer des observateurs. Ça sert pas à grand chose, que c'est très difficile, mais l'opposition veut essayer de mettre en place un système de surveillance de l'ensemble des bureaux de vote. C'est pas s'ils vont y arriver, mais il y a quand même une volonté, encore une fois, d'avancer dans la démocratie. Le problème de la communauté internationale, les gens s'imaginent toujours, par exemple, la France, très puissante dans ses anciennes colonies, etc. Mais vous savez, très souvent dans les relations entre les chefs d'État et puis celui qui est à l'Élysée. Souvent, c'est plutôt les chefs d'État qui servent comme levier. Pour la COP21, par exemple, François Hollande, il avait besoin de tous ses chefs d'État autour de lui. Pour la lutte antiterroriste, vous allez avoir un sommet franco-africain à Bamako en janvier 2017. Et vous allez voir autour de François Hollande, vous allez voir l'ensemble de ses chefs d'État, démocrates ou pas démocrates, etc. Et qu'est-ce qu'il peut dire François Hollande? On s'imagine toujours la France et Pierre Puissant puissante qui contrôle tout en Afrique. Je peux vous dire que les chefs d'État, ils ont à partir du moment où la France n'a plus, en tout cas, comme chacun sait, d'argent dans ses caisses, il n'y a plus de développement, on est dans le tout sécuritaire, Paris, Bamako, l'ensemble de l'Afrique, c'est le tout sécuritaire, lutte antiterroriste pour tout le monde.
Ça on va y revenir, mais c'est quoi le rôle de la France aujourd'hui, justement?
La France, en fait, vous savez, elle se donne toujours, enfin, si j'ai fait un bouquin qui s'appelle « Arrogant comme un France en Afrique ».
Ah, c'est le mot au cœur de l'ouvrage, l'arrogance.
Oui, parce qu'on a l'impression que la France, ça ne fait pas plaisir, hein, c'est pas une mise en accusation, c'est au contraire les occasions perdues. La France, elle était en Afrique, elle avait des positions extraordinaires, mais finalement, elle voit l'Afrique comme son miroir. Elle aime en Afrique ce qui lui ressemble, de ce qu'elle a exporté. Elle aime que finalement la France en Afrique, elle aime que la petite France, elle aime que les villages gaulois en Afrique. Mais elle n'aime pas l'Afrique des Africains. Personne ne s'est intéressé à l'histoire africaine de l'Afrique. Si on s'était intéressé plus à l'histoire africaine de l'Afrique...
On se souvient d'un discours d'un président français si longtemps sur l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire.
Exactement. Hein. Ouais. Et on comprendrait mieux ce qui se passe avec le Al-Qaïda. On comprendrait mieux quand il y a les attaques qu'il y a actuellement les djihadistes. On verrait que quand on prend les livres d'histoire, que le front du Massina existait déjà, que les Français s'imaginaient que les valeureux capitaines de l'Empire avaient déjà vaincu tous les califats et autres, et on voit c'est comme la France en Afrique, c'est comme un millefeuille, on voit que le sucre, la France se croit chez elle en Afrique, mais la réalité c'est que vous avez des strates, vous avez l'Afrique des Africains, vous avez le retour d'une islamisation sur l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, avec sa version djihadiste, mais sa version aussi wahhabite et salafiste, et donc c'est une islamisation réelle de l'Afrique.
Et justement, et là c'est ma dernière question, Antoine Glazer, parce que le temps file, est-ce que la prochaine menace, la plus sérieuse finalement, sur tous les processus démocratique, et là je pense à l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est pas cette menace islamiste, menace terroriste?
C'est pas simplement la menace islamiste, ça veut dire que les islamistes
tapent
actuellement toutes les communautés expatriées, ça s'est vu à Bamako, à Ouaga et à Grand Bassam, pour faire fuir les expatriés, pour qu'il y ait des zones en déshérence, pour installer la charia dans toutes les zones en déshérence. Ça c'est une réalité, mais le problème de l'ensemble du continent africain, c'est la démographie en Afrique, le problème de la jeunesse, continent qui va passer de 1 à 2 milliards d'habitants. Donc vous allez avoir bien sûr que les gens qui font du business, vous allez avoir 300-400 millions de ce qu'on appelle des classes moyennes où vous pouvez vendre des choses, mais vous allez avoir toujours 1,4-1,5 milliard de gens qui sont pauvres, extrêmement pauvres, et c'est ça le vrai danger.
On a 350 autres questions à vous poser, Antoine Glazer, mais on s'arrête là. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier livre, absolument passionnant, c'est pas de la flagornerie, « Arrogant comme un Français en Afrique » chez Fayard. À suivre, l'actualité de la semaine vue par nos correspondants à l'étranger, mais d'abord, « I heard it through the grapevine », Creedence Clearwater Revival. I heard it through the grapevine, Creedence Clearwater Revival. La revue de presse des correspondants de France Inter.
Londres, Franck Medvon, France Inter.
Bonsoir Cyril Sauvageau en direct de Berlin.
Bonsoir.
Et l'on poursuit notre tour du monde des envoyés spéciaux.
Washington, Frédéric Carbon, France Inter.
Et oui, comme chaque vendredi, la revue de presse de nos correspondants à nous, de Capital. Et l'on commence tout de suite par la Chine. Bonsoir Dominique André en direct de Pékin.
Bonsoir Michael.
Alors, à la une chez vous cette semaine, Dominique?
La une du Beijing Daily, quotidien très lu à Pékin et très politique, revient sur l'Assemblée nationale populaire qui vient de s'achever après 2 semaines de travaux au Palais du Peuple, place Tiananmen. La moitié du journal, 10 pages sur 20, est consacrée à ce moment phare de la vie politique chinoise. 2200 délégués chinois étaient à Pékin, venus des provinces, pour entériner le nouveau plan quinquennal qui a été décidé par le Parti communiste à l'automne dernier. Le Parlement chinois n'est que la chambre d'enregistrement du Parti communiste. Et sans surprise, bien sûr, ce nouveau plan quinquennal 2015-2020 qui devra répondre au ralentissement économique de la Chine a été voté. Cela dit, pour avoir assisté à ce vote qui était ouvert à la presse, on a pu constater que 10% des délégués ont voté contre la loi anticorruption qui est une priorité de Xi Jinping.
Et en Chine comme en France, Dominique, on a beaucoup parlé cette semaine de ce combat entre l'homme et la machine autour d'une partie de Go.
Oui, le Southern Weekly, qui est le journal du week-end, comme son nom l'indique, et qui est du sud de la Chine, nous montre Li Shushe, le champion sud-coréen qui a perdu contre l'AlphaGo, le superordinateur. On le voit les yeux fermés sur cette photo. La bataille de Li Shushe contre la machine est très commentée en Chine, où le jeu de Go a été inventé il y a 3000 ans. Le journaliste rassure tous ceux qui sont anéantis par cette victoire de l'ordinateur sur l'homme. L'humain est le vrai vainqueur, écrit Zhu Chun, car c'est bien l'homme qui a inventé l'ordinateur. Et puis, ajoute le journaliste, le jeu de Go ne se résume pas seulement à la compétition. Le Go, c'est un art de vivre et de développement personnel et crée de l'émotion entre les hommes, ce qu'un ordinateur ne fera jamais.
C'est pas faux. Et sur les réseaux sociaux chinois, Dominique, on parle de quoi cette semaine ?
Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, mais en ce jour de pollution à Pékin, l'info, c'est le footing du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a couru ce matin sans masque sur la place Tiananmen avec un taux de pollution de 284, ce qui correspond à une qualité de l'air très mauvaise selon l'application que tous les Pékinois ont sur leur téléphone portable. Mais je vous rassure, on devrait tous bientôt bien respirer à Pékin grâce à un projet pharaonique et très surprenant qui circule sur WeChat, la messagerie la plus utilisée par les Chinois. Pour endiguer la pollution, la municipalité de Pékin veut créer dans la capitale des couloirs de ventilation qui relieraient les espaces verts, les rivières, les lacs, les autoroutes et les petits immeubles en supprimant les obstacles, notamment les grandes barres d'immeubles. L'idée, c'est de créer 5 énormes couloirs d'aération de 500 mètres de large et de plusieurs petits couloirs de 80 mètres de large. Mais beaucoup de Pékinois s'interrogent déjà sur l'efficacité de ces super ventilateurs.
À suivre, Dominique André, correspondante de France Inter à Pékin. Merci. Et de la Chine à la Grande-Bretagne, Londres, où nous attend Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Michael.
Alors, on savait déjà que le parti de David Cameron se déchirait sur le Brexit. Eh bien, une autre controverse divise les conservateurs, Franck.
Oui, le ministre des Finances, George Osborne, a présenté avant-hier le budget. Il voulait surtout ne fâcher personne en plein débat sur le Brexit. Eh bien, raté, Osborne a révélé d'abord que l'économie britannique se portait au moins bien que prévu. Il a annoncé de nouvelles coupes budgétaires après 6 années déjà d'austérité. Une mesure suscite une vive polémique, la réduction des aides sociales pour les personnes handicapées. 370 000 Britanniques devraient perdre en moyenne 4 000 euros par an. Révoltant, titre le Mirror, un tabloïd classé à gauche, mais les journaux de droite s'emparent aussi de la polémique. Le Daily Express parle de coupes cruelles et impitoyables. D'après le Télégraphe, une rébellion chez les Tories pourrait bloquer la mesure. Des députés conservateurs critiquent en effet cette décision qui frappe les plus vulnérables, alors que plusieurs réformes avantagent les plus riches dans ce budget. D'après l'un de ses députés, le gouvernement a 0 chance de faire passer la mesure au Parlement. Il pourrait donc faire machine arrière.
Et si l'économie britannique déçoit, Franck, c'est toute l'économie mondiale qui est en danger. Et la presse anglaise dresse même la liste des risques auxquels elle est exposée.
Et oui, le premier d'entre eux, c'est un crash de l'économie chinoise. On en parlait, c'est le résultat d'une enquête de l'Economist Intelligence Unit, l'unité de recherche du magazine The Economist. L'étude mesure à la fois la probabilité d'un événement et son impact si l'économie chinoise ralentit plus que prévu, et c'est fort possible. Cela aura de graves conséquences en Europe et aux États-Unis. Deuxième risque majeur, une nouvelle guerre froide avec la Russie. Viennent ensuite une crise de la dette des pays émergents, un éclat de la zone euro ou de l'UE. Et le Guardian s'attarde sur le sixième risque le plus important, Donald Trump, président des États-Unis. Ce serait aussi dangereux, Michael, pour l'économie mondiale que le terrorisme djihadiste. L'élection de Trump compliquerait les relations avec Pékin et renforcerait l'instabilité au Moyen-Orient, d'après cette étude.
Et pour finir, deux histoires qui provoquent un vif débat sur la misogynie des Britanniques.
Oui, alors la première histoire vient d'un événement très mondain ici, les courses de chevaux de Cheltenham ces jours-ci, le royaume de l'élégance. Mais une star de télé-réalité et un top modèle ont violé les règles de bienséance installées en loge. Elles ont dévoilé au photographe Michael leurs seins nus. Choquant, honteux, s'écrient les tabloïds, mais toute la presse n'est pas de cet avis. Le Télégraphe dénonce des réactions sexistes. D'après le journal, les deux starlettes ont raison de résister à une société qui attend que les femmes se comportent en ladies. Raison aussi de ne pas se sentir coupable alors que les paparazzis se jettent sur elles comme des proies. Autre histoire, la presse anglaise nous apprend que quand deux présentateurs animent un show télé, celui assis à gauche sur le canapé est considéré comme le plus important, le plus senior des deux. Or, BBC Breakfast, l'émission du matin, a un nouveau présentateur qui est assis à gauche alors qu'il est bien moins expérimenté que sa co-animatrice. Des téléspectateurs s'indignent, les journaux anglais parlent de Sofagate, allusion au canapé hein, bien sûr. Pour une ancienne présentatrice de la BBC, les chefs à la télé pensent qu'un homme dégage plus d'autorité. C'est le reflet d'une profonde misogynie.
Le Sofagate. Je vais regarder la télé française ce soir. Franck Madvon en direct de Londres. Merci beaucoup. Bachelors, 4 minutos. BBC's Brian Hanrahan. Buenos días, comienzan las comparecencias. Thanks so much for that report. Et à 18h43, on part au bord de la mer entre Tel Aviv et le Liban, précisément à Haïfa, petite ville d'Israël qui connaît depuis quelque temps une agitation assez incroyable puisqu'elle est en train de devenir le nouveau cœur culturel de la minorité arabe d'Israël. Bonsoir Marie Semelin, en direct de Tel Aviv.
Bonsoir.
Alors vous êtes allée sur place pour découvrir le dernier exemple de cette effervescence, Marie, et c'est un tout nouveau festival, le Festival du film indépendant d'Haïfa, toute cette semaine jusqu'à demain soir.
Un festival de films mis sur pied sans argent de la municipalité et surtout sans argent de l'État, parce qu'en voulant conditionner ses aides à des critères idéologiques, le ministère de la Culture israélien n'a pas de très bonnes relations avec ses artistes, a fortiori avec ses artistes arabes. Ceux de Haïfa veulent donc être indépendants financièrement et être libres de leur programmation. Écoutez Lina Swalem, elle partage son activité culturelle entre Haïfa et Paris et elle a participé à l'organisation du festival.
Les citoyens qu'on appelle les Arabes israéliens, qui sont palestiniens en Israël, sont déconnectés du monde arabe parce qu'ils ont le passeport israélien, mais parlent arabe, partagent la même culture. Et donc on voulait justement reconnecter aussi Haïfa au monde arabe. On a notamment deux films égyptiens et un film d'un Palestinien qui est né dans un camp de réfugiés au Liban. Donc c'est des Palestiniens qui ne peuvent pas entrer en Israël ni en Palestine. Donc c'est aussi l'idée de reconnecter toutes ces populations qui ne peuvent pas se voir à travers le cinéma.
Mais l'ambition est belle, hein. Et en plus, Marie, ce festival n'est qu'un événement parmi beaucoup d'autres.
Oui, depuis quelques années, les lieux culturels faits par et pour ceux qui se désignent palestiniens d'Israël se multiplient. L'un d'eux est un bar qui s'appelle Kabarit. C'est Ayat Fadel qui l'a entre autres créé. En plus d'être gérant, il est acteur, musicien et chanteur. Ici, tous ont plusieurs casquettes.
It's a space.
C'est un espace où les gens peuvent se retrouver, artistes, musiciens, où ils peuvent se parler. C'est la construction d'une société. Et c'est plus qu'important pour nous, en tant que société à l'intérieur d'Israël, de recréer notre identité qui a été effacée depuis 1948. Nous sommes des Palestiniens. Nous nous battons chaque jour pour garder cette identité dans cette ville. C'est de la résistance. La culture, c'est de la résistance.
Sur la scène de ce bar se produit la jeunesse arabe d'Israël, bien sûr, mais aussi des territoires palestiniens, comme avec du hip-hop venu de Ramallah. Les cris du public, c'est pour acclamer les paroles qui critiquent à la fois la corruption de l'autorité palestinienne et l'occupation israélienne, parce qu'ils se défient de l'un et de l'autre.
Et pourquoi, Marie, cette effervescence culturelle ici à Haïfa plutôt qu'à Tel Aviv ou Jérusalem ?
Eh bien, ces deux villes sont déjà dominées par une identité culturelle. Il y a donc moins de place pour un renouveau, mais aussi parce que Haïfa est une ville importante pour les Palestiniens. C'est ce que dit Eyad Berghouti. En plus d'être écrivain, il dirige l'association culturelle arabe.
Haïfa est un endroit dont les gens sont fiers. Et tout le monde arabe connaît l'importance de la ville de Haïfa. La place symbolique de la ville dans l'identité palestinienne a donné un sens profond au mouvement culturel de la ville. Vous lui redonnez vie. Donc notre première mission, du point de vue d'une institution, c'est de créer les bases, les infrastructures de l'indépendance culturelle.
Le grand projet de cette association, si la mairie l'accepte, c'est pour 2017, un centre d'art avec une galerie, des arts visuels, une bibliothèque et bien sûr un café.
Marie Semelin, correspondante de France Inter à Tel Aviv, merci. On continue de parler de l'actualité via la culture avec ce film américain qui sort aujourd'hui, pas en salle mais en VOD, 99 Homes, 99 foyers, c'est son titre, du réalisateur Ramin Barani. Un film qui nous replonge en pleine crise des subprimes aux États-Unis, quand des millions d'Américains se retrouvaient jetés à la rue en quelques minutes, maisons et mobilier saisis par des recouvreurs de dettes sans scrupules, film choc et qui se regarde presque comme un documentaire. Bonsoir Eva Bétan.
Bonsoir. Le film a eu le grand prix au Festival de Deauville. C'est vraiment un film très, très, très intéressant. Alors, ne voyez aucun cynisme dans ce que je vais dire. La crise des subprimes a généré des bons films. Il y avait eu Le Loup de Wall Street. Il y a eu The Big Short qui est sorti récemment. Cela se mettait, je dirais, du côté de ceux qui trafiquent, en quelque sorte, du côté de la finance. Il y a eu ceux aussi qui se mettaient du côté des victimes. Et comment comprendre ce qui s'est passé du côté des gens qui se sont trouvés hors de leur maison? Il y avait un documentaire formidable qui s'appelait Cleveland contre Wall Street. Et ce film-ci, 99 Homes, est une fiction totalement nourrie de réalité. Le début du film est saisissant. Vous voyez des gens arriver pour être saisis. C'est brutal, c'est violent, ils doivent partir immédiatement. Des nettoyeurs arrivent tout de suite après. Il y a une sorte d'agent immobilier, le méchant du film, qui est joué par le formidable Michael Shannon, qui est un peu l'homme des banques, et qui a un flic véreux à côté de lui, des policiers véreux à côté de lui. Et il y a aussi cette chose qu'on va retrouver dans certains films qui parle de crise, qui est de mettre le dilemme moral du côté des victimes. Et là, je fais allusion, par exemple, à La Loi du Marché, où le chômeur devient vigile, ou Rosetta des frères Dardenne, où Rosetta, pour avoir un boulot, était prête à faire n'importe quoi. Eh bien, un des pères de famille expulsé, l'affreux agent immobilier, lui dit, si tu as une chance de regagner ta maison, ben viens travailler avec moi dans l'équipe des nettoyeurs. Et cet homme se retrouve le lendemain à expulser des gens. Alors, vous allez voir, c'est un film qui est implacable, qui est très bien fait. Il y a une idée, une conscience, je dirais, politique derrière, et il s'appuie totalement sur la réalité. Il a fait une grande enquête avant et il crée une fiction à partir de choses absolument réelles. Ramin Barani.
Je suis allé dans un tribunal qui statue sur les saisies. Votre affaire est réglée en 60 secondes. J'ai rencontré des agents immobiliers. J'étais choqué parce qu'ils avaient tous une arme sur eux. Les gens tirent sur eux à partir des maisons. Tout ce que vous voyez dans le film est basé sur la réalité. Le shérif qui dirige les expulsions aux côtés du personnage de Michael est un vrai shérif qui fait cela pour gagner sa vie. Pareil pour les équipes de nettoyage, les gars font vraiment cela. Les spectateurs sont choqués quand le personnage d'Andrew, après avoir été lui-même expulsé, expulse à son tour d'autres personnes. Pour bien faire ressentir la crise morale que cela signifie, les personnes qu'il va expulser sont de vraies personnes, dans de vraies maisons. Cela ajoute de l'authenticité au film et le public la ressent. C'est un dilemme moral terrible pour Andrew. Il vient de vivre une expulsion atroce et une heure après, il fait pareil aux autres. On ne s'attend pas à cela. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans une situation comme la sienne? Il n'a plus de maison, plus d'argent, sa famille vit dans un motel. Qu'est-ce que vous allez faire?
On connaissait la crise des subprimes, mais ce que vous nous montrez, c'est un système. La justice est expéditive, les policiers sont corrompus. On a l'impression qu'il n'y a pas d'État. On a l'impression que ces gens sont seuls.
Michael Shannon joue le méchant, mais vous comprenez son point de vue quand il fait cette grande tirade dans laquelle il dit que l'Amérique est faite pour les gagneurs, pas pour les perdants. Le personnage de Michael n'a pas envie de faire des expulsions. Il est agent immobilier. Son métier à l'origine, c'est de mettre les gens dans des maisons. Mais les choses ont changé. Le véritable méchant de l'histoire, c'est le système. C'est le système qui pose problème. Michael est juste un enfant du système. Les gens ressentent cela de par le monde.
Oui, alors une chose très importante, ne le cherchez pas en salle, ça sort en e-cinéma, donc sur la plupart des plateformes, quasiment toutes les plateformes, vous le trouverez, et ça coûte 6,99€, pour ne pas dire 7 euros.
Pour ne pas dire 7 euros. Merci Eva Bétan.
Hey, wake up!
No!
Un jour dans le monde.
What?
Michaël Thébault.
Oh my God!
Sur France Inter.
Ouais, devinez, on vous emmène maintenant au musée des arts décoratifs de Paris pour une expo qui fait courir petites et grandes en ce moment. Expo consacrée à une idole âgée de 57 printemps, 29 cm, j'ai nommé Barbie. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
Alors expo qui donne le tournis hein, quand on est fan, avec pas moins de 700 exemplaires différents.
Oui, sachez Michael qu'on vend toutes les deux secondes 5 Barbie dans le monde. Mais les ventes de Barbie ont reculé de 20% en valeur ces dernières années.
Chiffre d'affaires effectivement de Barbie en 2002, 1,9 milliard de dollars. En 2015, 1 milliard seulement. Presque deux fois moins, Christine.
Oui, alors pour se refaire une santé économique, elle va essayer de doubler sa taille. En fait, Barbie sort en version curvy, avec des formes plus rondes pour être plus dans l'air du temps. Néanmoins, Barbie, depuis qu'elle est née, en fait, existe sous toutes ses formes, sous toutes les couleurs de peau, sous toutes les nationalités. Elle est super-héroïne, elle est punk, elle est cosmonaute, présidente. Elle parle toutes les langues. La preuve sur le web, avec la série Life in the Dream House, dont on vient d'entendre le générique, et au cinéma. Bref, Barbie existe sur tous les continents, tous les pays, ou presque, mais pas au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Anne Monnier, la commissaire de l'exposition à Paris.
Barbie, elle ne peut pas exister au Proche et au Moyen-Orient, même si Mattel avait fait Barbie voilée, parce que finalement, ce qu'on reproche plus à Barbie dans ces pays-là, c'est d'être le symbole de l'Amérique, d'être le symbole d'une société qui est honnie, plutôt que de reprocher à Barbie sa vie en tant que jouet.
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mattel ne peut pas exister, Barbie oui, et d'ailleurs elle s'appelle Fula ou encore Sarah.
Oui, tout est parti du moment où l'Arabie Saoudite a fermé ses portes à Mattel, et alors est apparue Fula, donc qui veut dire jasmin, et qui se décline de différentes façons selon les pays, en Syrie, en Égypte ou en Tunisie par exemple, Anne Monnier.
Moi j'ai l'impression que dans les pays où elle n'existe pas, ça crée un vide tellement insupportable qu'il faut créer Barbie. En fait, en Iran, Barbie est interdite, donc les Iraniens ont créé Sarah, qui est une réplique iranienne de Barbie. En Iran, ça marche pas très bien parce que finalement, il y a un marché noir assez développé autour de Barbie, donc les Iraniens achètent Barbie. Mais il existe aussi Fula, qui est une poupée qui marche très très bien dans tous les pays du Moyen-Orient. Donc c'est une poupée qui ressemble à Barbie. Le corps est moins féminisé que celui de Barbie, mais c'est quand même aussi un corps de femme avec une poitrine, des hanches, une taille. C'est une poupée qu'on est censé habiller, déshabiller, qui a un vrai sens de la mode. Et Fula est proposée selon différents degrés de religion. On peut avoir Fula avec une tunique claire et un foulard clair. On peut avoir Fula avec une abaya noire. Et on peut avoir Fula avec un foulard qui cache quand même une bonne partie du visage.
Et la dernière Barbie en date qui fait un tabac, c'est celle qu'on appelle la Hijarbi. En fait, c'est une Nigériane, Hanifa Adam, qui montre toutes les façons d'habiller sa poupée Barbie avec des poupées noires asiatiques, mais toujours avec un hijab, quelques bijoux parfois, et elle veut montrer en fait que Barbie peut être une femme modèle, voilée certes, mais coquette et libre. Alors, Michael, sur franceinter.fr, nous avons inventé une vraie Barbie libre. Libre, c'est une Barbie qui lit. Et nous avons imaginé eh bien, que Barbie lisait Sagan, Despentes, par exemple. C'est à retrouver sur franceinter.fr.
La bibliothèque de Barbie sur franceinter.fr. Merci Christine Siméon.
Pour être présidente, il faut lire.
18 de fête, 18h56, l'heure de l'édito d'Alain Frachon du journal Le Monde. Bonsoir Alain.
Bonsoir Michael.
Et ce soir, retour sur ces négociations en cours entre l'UE et la Turquie.
Dans cette négociation, il y a des gens qui ne parlent pas. On n'entend jamais ou très rarement les réfugiés eux-mêmes. Ce sont des gens à baluchons, mais sans micro. Il y a aussi la population turque qu'on n'entend pas. Elle est pourtant un élément clé de cette histoire. On sait ce qui est en jeu. À l'instigation d'Angela Merkel, les Européens veulent casser, arrêter, en tout cas diminuer le flux migratoire venant de Turquie et qui, passant par la Grèce, se dirige ensuite via la route des Balkans vers l'Union Européenne. L'idée de l'Allemagne est d'offrir suffisamment de contreparties à la Turquie pour qu'elle accepte de reprendre les réfugiés illégalement arrivés en Grèce. C'est de Turquie sur le territoire turc et pas ailleurs que les réfugiés doivent faire leur demande d'asile ou d'immigration économique. La Turquie abrite déjà plus de 2,5 millions de réfugiés syriens. Pour la convaincre de jouer ce rôle de gardienne des portes de l'Union, on lui propose plusieurs choses. Un assouplissement du régime des visas pour les Turcs qui veulent entrer dans un pays de l'Union, une reprise des négociations d'adhésion à l'Europe, une impressionnante aide financière. Mais quel que soit le résultat de la négociation de ce soir, entre les 28 et Ankara, il repose sur un élément rarement pris en compte, la tolérance de la population turque. On n'en parle jamais. On n'évoque que la partie de bras de fer en cours avec les dirigeants d'Ankara. La population turque, elle, fait preuve de générosité. Au cours des scrutins de ces trois dernières années, jamais un parti politique turc n'a cherché à exploiter la question des réfugiés dans un sens ou dans un autre. Jamais cette question n'a été au centre d'une campagne électorale. Aucune formation politique importante n'a pris position contre l'hébergement accordé aux Syriens. À ma connaissance, on n'a jamais entendu parler d'une émeute anti-immigrés syriens en Turquie. Dans le Financial Times, ce matin, Sinan Ülgen, un des plus brillants politologues turcs, évoque la génétique du vieil empire ottoman pour expliquer cette tolérance. Pour la plupart des Turcs, écrit-il, ce geste humanitaire est la réponse naturelle à une tragédie affectant une population musulmane. Je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, mais il faut bien constater que 78 millions de Turcs acceptent plus de 2,5 millions de réfugiés, dont 500 millions d'Européens ne savent que faire.
Alain Frachon, merci. Et bonsoir Mathieu Aron.
Bonsoir Michael.
Dans une vingtaine de minutes, secret d'info sur le drame de Brétigny-sur-Orge et la SNCF qui n'a peut-être pas tout dit.
Oui, nous nous sommes procurés de nombreuses écoutes téléphoniques qui montrent comment la SNCF prépare sa défense. Vous allez l'entendre, c'est pour le moins troublant. Et puis inquiétant aussi, ces écoutes montrent un état de délabrement du réseau des voies de chemin de fer. C'est tout de suite.
À tout à l'heure Mathieu, dans une poignée de secondes, le journal de 19h.